Alors que Dieu veuille bénir encore sa parole, car c'est sa parole, c'est Jésus qui nous donne ces histoires qu'on appelle des paraboles pour nous instruire et nous inclure dans l'histoire. Car si je vous lis et commente cette parole aujourd'hui, c'est bien pour que, avec l'intention de vous mettre, de vous intégrer dans l'histoire que Jésus raconte. Vous êtes nécessairement, et j'aimerais que vous le compreniez, que vous le receviez, que petit à petit, au fur et à mesure que nous allons lire et commenter, vous puissiez vous percevoir comme étant un acteur dans cette parabole. Alors, voilà, vous allez comprendre. C'est tout un chapitre, hein. Je vous avais, voilà, déjà bien reçu les premières paraboles. Tout un chapitre sur la joie du ciel quand un pécheur se repent. Ma brebis était perdue. Ma pièce de monnaie spéciale était perdue. Et ici, c'est mon fils qui était perdu. Voyons donc dans cette lecture comment les hommes se perdent et peuvent être retrouvés. N'hésitez pas à avancer, les frères qui arrivent, vous pouvez vous avancer à de la place dans les bancs. J'entame donc cette lecture de cette parabole la plus complète du passage. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. » Et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ?» Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Cette parabole est certainement la plus universelle, la plus compréhensible par des gens du monde entier. Elle dit exactement notre situation vis-à-vis de Dieu. Un père, un homme, avait deux fils. Un père avec sa maison. Ce n'est pas n'importe quelle maison. Nous voyons que c'est ici un propriétaire terrien. C'est une maison avec des serviteurs, avec des champs tout autour. Une maison qui a une prospérité assurée. C'est une maison qui a un passé, un présent et un avenir. Dans laquelle et pour laquelle on peut vivre. Les deux fils pouvaient faire valoir le potentiel de la maison du père. Puis, au moment de l'héritage, continuer à faire prospérer l'affaire, peut-être en achetant un peu plus loin pour avoir chacun leur propriété, ou encore l'un pouvait s'orienter dans une activité parallèle, complémentaire. Quoi qu'il en soit, la maison se suffisait à elle-même. Et c'est cette maison stable et bien établie que le plus jeune fils décide de quitter. Le partage des biens est accepté, apparemment, sans aucun problème, sans aucune difficulté par le père. Je pense que le père a compris qu'il ne sert à rien de vouloir retenir son fils. Il faut que le fils fasse son expérience, qu'il soit confronté à ce que ses pensées ont projeté, de ce que devrait être sa vie. Et le partage des biens se fait. Ce partage des biens ne fait pas péricliter la maison, tout simplement parce que le père est là pour continuer à la faire prospérer. Dans la loi d'Israël, le fils aîné jouissait d'une double part d'héritage. Le fils aîné jouit donc ici de sa part et de la part du père, on peut dire en indivision, tandis que le fils plus cadet garde son tiers à lui. Rien n'est dit ici de la réaction de l'aîné. Nous la connaîtrons plus bas dans le texte. L'aîné, le plus jeune, il est bien connu que les seconds sont plus rebelles et plus aventureux que les aînés. C'est une règle psychologique, je ne sais pas, c'est comme ça dans toutes les générations, dans toutes les familles, dans tous les peuples. Voilà, le second, il est plus facilement rebelle, il est plus facilement autonome que le premier, qui est plus conforme à ce que le père voudrait. C'est ainsi. Mais ici, comme souvent, l'esprit d'aventure n'est pas mis au service du travail, mais du plaisir. Un pays éloigné, c'est un éloignement moral autant que physique. Il n'y a pas de compte à rendre. Et dans cet état d'esprit, la situation évolue très vite. Tout est vite dépensé et il n'y a plus rien. comme ressource personnelle. À ce moment-là, parce que le fils pouvait éventuellement avoir cette idée que, bon d'accord, il profite pendant un moment de la vie, puis ensuite il se met au travail, et ensuite il fait ses affaires. Mais juste au moment où il n'a plus rien, une famine survient dans le pays. Un facteur aggravant. La débauche morale d'un individu finit toujours par rencontrer la faillite du monde. Toujours. Que ce soit sur le plan purement, on peut dire, humain, matériel, que sur le plan de la connaissance de Dieu. Alors, dans ce pays éloigné, il y a quand même aussi de l'activité. Il y a des personnes qui ont des propriétés et qui peuvent donner du travail. Mais quel travail ? Pas le travail noble du pays et de la maison d'origine. Les deux pays n'ont pas les mêmes valeurs. Quelle honte pour ce fils, juif censément dans le contexte, d'aller garder les pourceaux, l'animal impur par excellence. Et c'est à cela qu'est réduit ce fils. Heureusement pour lui, ce fils a une référence certaine et il a encore un être intérieur dans lequel il peut plonger, dans lequel il peut trouver ses souvenirs. Et c'est alors qu'intervient dans cette parabole la mention spirituelle qui distingue cette histoire d'une simple histoire morale. J'ai péché contre le ciel et contre toi. La mention du ciel permet de comprendre à quel niveau Jésus place cette histoire finalement très humaine. Et il faut dire ici que c'est à pécher contre le ciel que l'on détruit toutes les relations humaines. Tout ce qui se détruit dans ce monde, tout ce qui s'abîme, tout ce qui se corrompt, tout ce qui se perd, vient de cet abandon de la maison du Père, de cette ignorance de la maison du Père. Ici, c'est la relation fondamentale père-fils qui a été touchée. La relation père-fils, dans la bouche de Jésus, nous fait comprendre la manière dont Dieu vous considère. Vous n'êtes pas des étrangers à Dieu. Vous êtes ses fils et ses filles. La relation a été rompue par le Fils, comme à chaque fois que nous péchons contre Dieu. À chaque fois qu'un être humain décide de tourner le dos à Dieu pour mener sa vie morale loin de lui, la scène se reproduit. L'histoire se perpétue et ça se termine dans le désarroi, pour ne pas dire dans le caniveau. Alors il est très possible que dans votre esprit, vous défendiez d'en être arrivé là, tant mieux pour vous. Mais laissez-moi vous dire, toutes les impasses, toutes les relations humaines brisées, toutes les faillites de votre vie viennent de là. Allons même encore un peu plus loin. Toutes les réussites qui vous laissent insatisfaits et vides en vous-même viennent aussi de là. Vous pouvez avoir vécu dans une débauche de travail et d'activité qui vous laisse dans le même état que ce jeune fils. Et je voudrais encore vous dire ceci. Il est très probable que vous vous retrouviez dans cette situation sans même l'avoir voulu. Vous avez simplement été entraîné par le courant de ce monde qui ignore Dieu. Il vous est peut-être arrivé de dire non à Dieu sans même savoir qu'il y a une maison du Père, pleine de ressources et de sens pour vous. Et je plains personnellement, particulièrement cette génération où beaucoup sont élevés dans une ignorance totale de la maison du Père, une ignorance totale de la connaissance de Dieu. Plus rien pour leur dire ce qui est à l'origine et ce qui est l'avenir pour eux. C'est pourquoi beaucoup, à un moment donné, se sentant totalement perdus, sans aucun sens, sans direction dans leur vie, sans ressources, ne peuvent même pas penser retourner à la maison du Père, ils ne la connaissent pas. Ils n'ont rien. D'où le nombre immense de suicides, même de jeunes, de très jeunes. Mais moi, je vous dis, avec Jésus, si vous ne le saviez pas encore, mais je pense que, quand même, parmi vous, vous le savez quand même, qu'il y a une maison de laquelle vous venez, dont le maître, car il est maître pour faire prospérer sa maison de l'univers, le maître est votre père qui vous attend. Oui, le père attend dans la parabole. Il n'a pas perdu l'espoir de revoir son fils. Comme il était encore loin, le père le vit. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Vous voyez comment Dieu n'attend que votre retour. Encore loin. Je peux dire que Dieu vous voit dans vos intentions de bien plus loin que vous ne le pensez. Et le moindre mouvement de retour vers lui, il le connaît. Il le perçoit. Alors à chacun d'entre vous, son contexte de vie, ses antécédents et ses péchés, à chacun d'entre vous, sa déception, son désir insatisfait d'être rassasié, mais à chacun de vous aussi, la capacité de penser profondément à la maison du Père. À chacun d'entre vous de dire en vous-même, je veux moi aussi me lever et aller vers Dieu. Je veux le reconnaître pour ce qu'il est et bénéficier de la sécurité de sa maison. Du peu que j'en connaisse, dès l'instant où l'on vous apprend quelque chose de Dieu, ce mouvement dans votre âme peut se produire. Du peu que j'en connaisse, je comprends que par lui est ma vie et mon avenir. Vous remarquerez que le Fils, voyant le Père l'accueillir avec tellement d'empressement, n'a pas changé sa pensée. Il s'est humilié avec les mots qu'il avait préparés. Il n'a pas cherché à faire l'économie de l'humiliation. Bien au contraire, il est passé en quelque sorte de la théorie de la repentance à son expérience. Dire les choses devant une personne, c'est bien autre chose que de les penser. Dès vos premiers mots d'humiliation devant Dieu, vous entrez dans l'amour. Et c'est ça qui change tout. Vous entrez dans l'amour et vous rencontrez l'amour de Dieu. C'est ainsi que Dieu vous attend et qu'il peut vous interrompre pour que vous ne preniez pas une position trop basse. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le fils n'a pas le temps de le dire au père. Celui-ci a déjà pris l'initiative de le restaurer. en tant que fils. Dieu veut réellement vous accueillir comme ses enfants et non comme des gens qui peuvent seulement bénéficier, on peut dire, de sa couverture, des ressources qu'il possède sans partager son intimité et tous ses projets pour le monde. Car Dieu a des projets pour le monde. Il n'a toujours pas abandonné le monde. Dieu, au contraire, a tant aimé le monde. Alors, le Père donne trois gages de restauration. La robe la plus belle, l'anneau au doigt et les souliers aux pieds. La robe la plus belle, ben voilà, tout, et les trois d'ailleurs, c'est la dignité retrouvée. L'anneau au doigt, je lisais ce commentaire, c'est plutôt l'autorité pour agir, parce que cet anneau, il servait aussi de sceau pour pouvoir donner des ordres, de sorte qu'elles soient accomplies. C'est le symbole de l'homme qui a une autorité, en fait. Et puis les souliers, ben, tout simplement, le confort de la marche, alors que les esclaves allaient nu-pieds. Donc ce fils est vraiment rétabli. Et puis c'est le veau gras et la fête, le repas en commun, dans toute l'écriture et dans la tradition humaine, c'est la même chose. Le repas en commun, c'est la communion retrouvée. Avec ce veau gras, qui est le symbole d'une vie qui était prête à être sacrifiée dans ce but. Alors, il y a peut-être, s'il y a une notion d'expiation dans cette parabole, elle se trouve là, mais ce n'est pas l'accent de la parabole. Et comme le fait remarquer donc un excellent commentateur, Frédéric Godet, l'histoire met en scène des relations humaines pour lesquelles l'expiation n'entre pas en compte, car tous les hommes sont pécheurs, les pères comme les fils. Et l'expiation ne peut intervenir que dans notre relation à Dieu, qui est très saint et sans lequel nous ne pouvons pas nous approcher sans qu'il y ait expiation de nos péchés. Donc ce qui apparaît ici dans cette parabole, c'est surtout la joie des retrouvailles et des relations totalement restaurées. Mais quelqu'un n'apprécie pas. Quelqu'un qui vient au devant de la scène après cette fête et qui nous interroge. Ce fils aîné, que représente-t-il ? Clairement, pour être resté dans la maison du Père, à servir le Père, comme il le dit, ce fils aîné représente quelqu'un de croyant. Oui, il y a dans ce monde des personnes, et même encore un peu dans notre société, même si elle s'en éloigne de plus en plus, mais il y a encore des personnes qui défendent les intérêts de Dieu, des personnes religieuses, strictes dans leurs observances, mais qui manquent l'essentiel. Le fils, ce fils aîné, servait le Père, et ça apparaît donc dans ce qu'il dit, avec une mentalité d'esclave. Il avait oublié qu'il était fils, avec tous les privilèges que cela comporte. Il vivait sans joie, frustré de toutes les satisfactions de la vie dans la maison. Ce fils ne connaissait pas l'amour de son père, et il n'aimait aucunement son frère, qu'il appelle d'ailleurs « ton fils » plutôt que « mon frère », « ton fils qui a tout dépensé ». Lui, dans son esprit, il est tout seul, il n'a plus personne à côté de lui. Mais remarquez que pour lui aussi, le père doit sortir de la maison. Il doit aussi aller à sa rencontre. De la même façon que Dieu L'Esprit Saint doit aussi venir à la rencontre de personnes parfois très croyantes, mais qui n'ont pas reçu le témoignage de son amour, qui vivent une religion de forme, d'exigence, de pression, mais qui ne se réjouissent pas de Dieu. Oui, le Père doit aller à sa rencontre et l'inviter à comprendre et à entrer, participer à cette joie du retour, cette joie de la repentance de son frère. La vie chrétienne, il est vrai qu'on prend bien des difficultés et des épreuves, mais en soi, croire et s'approcher de Dieu est une joie. Parce que le cœur humain est préparé pour être un sanctuaire de Dieu. Et c'est lorsque Dieu vient vraiment régner dans ce cœur que l'homme connaît sa véritable vocation, sa véritable satisfaction, sa véritable joie. Cette parabole nous dit que Dieu n'est pas mort, parce que pendant tout ce temps où le fils dilapidait l'héritage, le père était toujours vivant. Dieu n'est pas mort, il est toujours vivant et plein de compassion pour accueillir les pécheurs et leur faire du bien avec tout ce qui lui appartient et que personne d'autre que lui ne peut donner. Que personne d'autre que lui ne peut communiquer. C'est Dieu qui est à l'origine de toute chose et c'est Dieu qui sera à la fin de toute chose. Nous ne trouvons notre plaisir, notre épanouissement qu'en Dieu. Ce pays éloigné dans lequel a vécu le Fils, eh bien, c'est l'état dans lequel l'âme n'est plus abordé par la question de Dieu, par la pensée de Dieu. Mais heureusement que cet événement et cette misère et cet dénuement, à un moment donné, l'a quasiment contraint de se souvenir et lui a permis de faire cette démarche. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. Il est possible que notre société continue dans l'exploitation de la liberté humaine jusqu'aux plus extrêmes limites et que notre société en tant que telle se retrouve vraiment dans cet état de misère, misère morale, misère matérielle, misère spirituelle, qui indiquera que la fin de l'histoire intervient. Mais pour nous, pour chacun d'entre nous ici, il faut anticiper ce jour. Il faut anticiper ce moment où vraiment plus rien ne sera possible, plus rien ne donnera du goût à la vie. Et dire dans son cœur, le moindre mercenaire chez mon père a du bien en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et puis pour ceux qui seraient restés dans un contexte religieux totalement insatisfaisant, il est temps de comprendre et d'accepter que Dieu aime et veut sauver les pécheurs et que tout nous vient de son amour, que nous soyons restés dans la maison, que nous soyons éloignés de la maison, nous vivons de l'amour et des ressources de notre Père céleste, que chacun d'entre nous puisse en être convaincu ce matin. Amen.